Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 64 de la Sainte Sourate Al-Amran. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel fait aux gens du livre et aux croyants pour adhérer à un principe commun, l'adoration de Dieu l'unique.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن صدق الله العلي العظيم.
Dis, ô gens du livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que parmi nous, nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'il tourne le dos, eh bien dites, soyez témoins que oui, c'est nous qui sommes les soumis.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, merci d'être avec nous en ce jeudi 30 mars 2023. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Vous aurez ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran attend la finalisation de l'accord de coopération stratégique avec la Russie dans moins d'un mois. Des avions de combat israéliens ont tiré un certain nombre de missiles depuis la région du Golan occupée vers les positions de l'armée syrienne au sud de Damas. Et le Burkina Faso décide de la reprise des relations avec la Corée du Nord. C'étaient les principaux titres en voici le journal. En visite à Moscou, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a exprimé l'espoir qu'un accord de coopération stratégique avec la Russie soit finalisé dans moins d'un mois. Les examens de l'accord de coopération stratégique à long terme entre les deux pays ont été finalisés en Russie. L'Iran l'a également examiné. J'espère que dans moins d'un mois, la révision finale de l'accord sera effectuée par le ministère iranien des Affaires étrangères, a déclaré Hossein Amir Abdollahian lors d'une réunion avec son homologue russe Sergei Lavrov à Moscou mercredi 29 mars. Des délégations iraniennes et russes de haut rang à différents niveaux échangent des points de vue et les présidents des deux pays sont en contact permanent, a-t-il ajouté. Toujours dans ses remarques, le chef de la diplomatie iranienne a souligné que les relations irano-russes progressent sur la bonne voie, espérant que la coopération bilatérale au sein des organisations régionales et internationales se poursuivra comme prévu. Évoquant les questions régionales, Amir Abdollahian affirme avoir abordé avec son homologue russe la cause palestinienne et exprimé l'espoir qu'un gouvernement inclusif sera formé en Afghanistan. En outre, il a déclaré avoir parlé à deux reprises avec son homologue saoudien de la reprise des relations Téhéran-Riyad, soulignant que son pays soutient toute initiative, y compris les actions de la Chine visant à lever le blocus du Yémen et résoudre les problèmes de la région. Soulignant la nécessité de mettre en œuvre l'accord sur le nucléaire iranien, Lavrov a pour sa part déclaré que la Russie et l'Iran conviennent qu'il n'y a pas d'alternative au plan global d'action conjoint. Nous exigeons le rattachement à la résolution de l'ONU sur cet accord et le monde attend que l'Amérique revienne à ses engagements, a-t-il ajouté. Le diplomate russe a aussi affirmé que les pourparlers entre l'Iran et la Russie dans différents domaines progressaient activement, notant que les relations Téhéran-Moscou dans les domaines politiques, commerciales, d'investissement économique, ainsi que la mise en œuvre de projets clés, se sont développées. Au jeudi 30 mars, des avions de combat israéliens ont tiré un certain nombre de missiles depuis la région du Golan occupée vers les positions de l'armée syrienne, au sud de Damas, la capitale. La défense aérienne syrienne a contré cette attaque par missile. Certaines sources ont annoncé que les chasseurs du régime sioniste ont bombardé les positions du groupe de résistance près du mont Rassion à Damas. Selon l'annonce du ministère de la Défense de la Syrie, À 1h20, heure locale, les avions de combat du régime sioniste ont tiré plusieurs missiles vers la ville de Damas, dont plusieurs ont été interceptés et détruits par la DCA syrienne. L'attaque a causé des dégâts matériels et 2 soldats syriens ont été blessés. Il s'agit de la 2e attaque du régime sioniste sur le territoire syrien en moins de 10 jours. Mercredi 22 mars, l'aéroport d'Alep a été endommagé par un raid aérien israélien. Israël effectue fréquemment des attaques par missiles sur des cibles en Syrie en utilisant principalement l'espace aérien du Liban ou des territoires occupés palestiniens. Des missiles tirés ont été pour la plupart interceptés par la défense aérienne syrienne. Le gouvernement syrien a envoyé à plusieurs reprises des lettres aux Nations Unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies, condamnant ces attaques et demandant leur cessation. La Syrie a réaffirmé son droit inaliénable à restaurer sa souveraineté sur les hauteurs du Golan occupées par Israël, dénonçant le soutien des États-Unis au régime qui l'a encouragé à prolonger l'occupation. Le représentant permanent de la Syrie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, l'ambassadeur Haïdar Ali Ahmed, a fait ses remarques lors d'une session du Conseil des droits de l'homme sur la situation au Moyen-Orient, rapporté mercredi 29 mars l'agence de presse officielle syrienne SANA. Israël commet un crime de guerre en construisant des colonies dans le Golan syrien occupé et ses plans de colonisation ont connu une escalade depuis la fin de 2021 lorsqu'il a annoncé le doublement du nombre de colons dans le Golan sur une période de 5 ans, a déclaré l'envoyé syrien. Ahmed a également souligné un projet du régime d'occupation d'installer des éoliennes dans le Golan, affirmant que ce projet prouvait l'intransigeance de Tel Aviv à maintenir ses pratiques coloniales et racistes sur le territoire syrien. Le moment est venu de commencer à prendre des mesures concrètes pour mettre fin à l'occupation des terres arabes par le régime israélien qui résulte du soutien que les États-Unis et d'autres pays apportent à l'entité d'occupation israélienne, a ajouté le diplomate syrien. Les États-Unis se sont révélés être l'allié le plus important et le plus dévoué du régime sioniste depuis 1948, lorsque le régime a annoncé son existence factice après avoir occupé d'immenses étendues de territoires régionaux. Washington a invariablement apporté un soutien aux azimuts d'ordre militaire, logistique et politique à Tel Aviv, l'encourageant à continuer sa politique d'usurpation et à poursuivre ses crimes meurtriers quasi quotidiens contre les Palestiniens. Le Burkina Faso a décidé de reprendre ses relations diplomatiques avec la Corée du Nord. Cette décision permettra aux deux pays de maintenir une coopération bilatérale exemplaire dans plusieurs domaines, a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Olivia Rouamba, à l'issue d'une réunion du Conseil des ministres. Rouamba a indiqué que les gouvernements du Burkina Faso et de la Corée du Nord se concentreraient sur l'équipement militaire, l'exploitation minière, la santé, l'agriculture et la recherche. Cette reprise des relations diplomatiques avec la Corée du Nord permettra à ce pays d'Asie de l'Est et au Burkina Faso d'entretenir une coopération bilatérale exemplaire dans plusieurs domaines, comme le secteur de la sécurité, à travers l'octroi à notre pays d'équipements et de matériel militaire, les secteurs des mines, de la santé, de l'agriculture et de la recherche, a-t-elle dit. Par le passé, le Burkina Faso a entretenu de très bonnes relations avec ce pays qui a été un partenaire privilégié pendant la période de la révolution d'août 1983, a indiqué la ministre. Le gouvernement burkinabé a également approuvé la nomination d'un ambassadeur nord-coréen au Burkina Faso. Pour le compte du ministère du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises, le Conseil a adopté un rapport relatif au guide de négociation des traités d'investissement et relatif au traité burkinabé des investissements. Pour le ministre en charge du commerce, Serge Boda, il s'agit d'outils juridiques très importants en matière de négociation des traités sur les investissements entre le Burkina Faso et les autres pays. La Corée du Nord a eu un commerce d'armes robuste avec le continent africain ces dernières années, fournissant des armes, des équipements et d'autres biens et services à plusieurs pays africains. La diplomatie burkinabé a travaillé à la diversification des relations avec d'autres partenaires, dont la Russie et la Chine. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Israël. Les habitants fuient en masse. Selon les médias israéliens, un nombre important de personnes cherche à fuir les territoires occupés, alors que la crise politique et existentielle à laquelle est confronté le régime sioniste, dirigé par le premier ministre Benjamin Netanyahou, ne cesse de s'aggraver. Le journal Yediot Ahronot a déclaré dans un rapport révélateur publié mardi 28 mars que le nombre d'Israéliens demandant l'asile à l'étranger avait considérablement augmenté à la suite des rassemblements de protestations de masse dans les territoires occupés d'Israël contre le plan controversé de Netanyahou visant à détourner le système judiciaire. Le nombre de candidats à la citoyenneté d'autres pays a considérablement augmenté, a déclaré le quotidien israélien. Suite aux événements récents et aux graves inquiétudes des Israéliens concernant l'avenir d'Israël, nous avons constaté une augmentation significative du nombre de candidats à la citoyenneté de divers pays du monde, écrit le quotidien israélien. Citant plusieurs avocats israéliens actifs dans le domaine de l'immigration, le rapport indique « Nous assistons à l'intensification de ce phénomène de telle sorte que le nombre de ces personnes n'a pas augmenté par dizaines mais par centaines par rapport au passé et chaque avocat reçoit 5 à 6 demandes par jour ». Le rapport a également souligné que les personnes demandant le transfert de capitaux ou l'obtention de la citoyenneté ne font pas seulement partie des gauchistes et des opposants à Netanyahou, mais que des partisans des changements judiciaires peuvent également être vus parmi eux. Dans un autre rapport, le journal israélien avertit que les visiteurs et touristes étrangers annulaient également leurs voyages dans les territoires occupés en raison de la vague massive de manifestations antijudiciaires au cours des deux derniers mois. « Nous avons commencé à recevoir des avis d'annulation de l'étranger », a déclaré le chef du syndicat israélien du tourisme, Yossi Fatael, qui a refusé de préciser l'étendue des annulations. Les images incessantes diffusées depuis Israël s'infiltrent dans la conscience du monde. Ces derniers jours, nous recevons des appels inquiétants de nos collègues du monde entier, un phénomène que nous n'avions pas connu depuis des années, a ajouté Fatah. Des manifestations de masse se sont déclenchées dans l'entité depuis que Netanyahou a annoncé son projet de réforme judiciaire en janvier dernier. Des dizaines de milliers de manifestants ont affronté la police dans les rues chaque semaine, les dernières manifestations ayant rassemblé des centaines de milliers de personnes à Tel Aviv, samedi et dimanche. Le premier ministre israélien avait affirmé que le soi-disant plan de réforme empêcherait les tribunaux de dépasser leur pouvoir, mais les critiques ont déclaré qu'il l'aiderait à contourner certaines règles alors qu'il fait face à un procès en cours pour corruption. Netanyahou a annoncé lundi soir qu'il gelait temporairement le projet de loi qui modifierait la composition du système judiciaire israélien. Il s'est dit déterminé à faire passer le plan de réforme judiciaire. La lutte autour de ces projets illustre la profonde division de la société israélienne entre les partisans de l'actuelle administration de droite qui soutiennent que des changements judiciaires sont nécessaires et le nombre croissant de personnes opposées au projet de Netanyahou qui affirment que ces mesures affaibliront au contraire l'indépendance du pouvoir judiciaire.
Bienvenue. Le sujet du jour, du débat d'aujourd'hui donc, se trouve être la Syrie, la situation syrienne au niveau international, au niveau de ses voisins arabes, s'est améliorée plus que ça même, puisqu'il a eu droit à une visite en Arabie Saoudite qui s'est faite en grande pompe. Tout de suite donc, nous allons faire venir nos invités, tous les deux d'un point de vue virtuel. Alors, première invitée étant Madame Aïssar Midani, l'une de nos experts. Bonjour Madame Midani.
Bonjour à toute l'équipe, bonjour à votre invité, Monsieur Luc Michel.
On rappelle que Mme Midani est franco-syrienne et c'est notre analyste, notamment sur les questions syriennes. Alors, vous l'avez compris, notre deuxième invité, Monsieur Luc Michel. Bonjour, Monsieur Luc Michel, ravi de vous avoir avec nous.
Moi aussi, bonjour à votre équipe et bien entendu à votre Mme Midani. Et joyeux Nowruz à tous les Iraniens.
C'est gentil merci. À vous, merci beaucoup. Alors, Madame Midani, j'ai envie de commencer par vous parce qu'il y a quelques semaines, dans les mêmes studios, on avait parlé de la Syrie et vous vous disiez donc très optimiste, je reprends vos propos, concernant le futur syrien. On savait également que par le fait que Damas souhaitait stabiliser son pays, ils allaient devoir avoir une ouverture au niveau international. Vous vous rappelez, lorsqu'il y a eu la réunion de la Ligue arabe, eh bien, on y a été question, mais il fallait que ce soit le monde arabe qui fasse le premier pas. Comment vous avez envie de commenter l'actualité syrienne de ces dernières semaines?
En effet, je crois que ce qui est assez remarquable, c'est que l'ensemble des pays arabes reviennent vers la Syrie peu à peu, en fait, je dirais. Bien sûr, Oman, Mascate, ils n'ont jamais coupé les relations. Les Émirats arabes unis ont coupé les relations en 2012, comme vous le disiez dans votre rapport, mais sous pression américaine. Et par contre, manifestement, il y avait beaucoup de relations sous la table aussi, ce qui explique le fait que maintenant, ce sont les premiers pays qui font des démarches aussi pour le retour de la Syrie à la Ligue arabe et pour la reprise des relations avec la Syrie, puisque tout le monde se rend compte peut-être qu'ils étaient sur le mauvais chemin et ils avaient tort dans la mesure où toutes les allégations qui étaient avancées par les États-Unis pour cette guerre contre la Syrie sont des allégations fausses, hein, comme ça a été toujours le cas, comme on le sait. Le monde occidental est un monde de mensonges médiatiques assez systématiques. Donc ces allégations pour la Syrie ont été fausses. Je rappelle aussi que là, on est dans le 20e anniversaire de l'invasion de l'Irak aussi sur des allégations fausses sur la base de soi-disant la construction d'armes de destruction massive en Irak et que velléité d'envahir ses voisins, etc. Donc n'empêche que ça a donné 1,5 million de morts et le pays a été complètement transformé de fond en comble, a été complètement détruit. Bon, bien sûr, les Irakiens reprennent maintenant ils ont déjà pansé leurs blessures et ils essayent de reprendre leur indépendance. La Syrie a bien résisté, donc a résisté à cette agression américaine en bonne et due forme, occidentale, moi je dirais, pas seulement américaine, c'est les États-Unis avec l'OTAN par des proxys interposés, par des terroristes qu'ils ont loués et des mercenaires, en fait, qu'ils ont loués à cet effet. L'échec de cette guerre terroriste en Syrie contre la Syrie a fait effectivement qu'il y a un nouveau monde qui apparaît et que le nouveau monde que nous voyons aujourd'hui poindre du nez et qui se forme réellement. La Syrie a été vraiment son initiateur, je peux dire, parce qu'elle a résisté pratiquement toute seule jusqu'en 2015 à l'agression américaine et OTAN. Et puis, à partir de 2015, le fait qu'elle ait demandé à la Russie de l'aide pour intervenir, et là, ça a été effectivement qualitativement important pour la libération de l'ensemble du territoire syrien, mais aussi ça a été important pour le changement du monde.
Merci, Madame Midani. Je me permets de vous interrompre parce qu'il y a une question qui se pose pour avoir discuté avec d'autres Syriens. Certains disaient que peut-être que Monsieur Assad, le président Assad, ne serait pas élu aux prochaines élections parce que les Syriens seraient fatigués du conflit et chercheraient donc un président plus diplomatique. Est-ce qu'on peut dire que le président Assad répond donc à la demande de ses citoyens permettant la diplomatie, restant ouvert à la diplomatie? Et est-ce que c'est pas finalement, il répondra finalement à la demande de son peuple d'essayer donc à ce que les frontières soient beaucoup plus amicales qu'avant?
Nous n'avons agressé personne. Donc, Les non-frontières, elles ne sont pas amicales par l'agression des autres. Le président Assad n'a agressé personne et il n'a éliminé personne. Ce sont eux qui nous ont agressés. La Turquie nous a agressés et jusqu'à maintenant, elle occupe une partie de notre territoire et elle anime aussi toutes les hordes terroristes qui sont à Idlib. Les États-Unis nous ont agressés et pillent nos richesses de pétrole et de céréales et de blé et de produits agricoles comme le coton, important comme le coton, comme les oliviers, comme tous les produits agricoles que fait la Syrie et surtout dans cette région de Hasaké nord-est de la Syrie, elles sont pillées par les Turcs, par les Américains, toujours par proxy interposé, mais les Américains, quand ils pillent le pétrole, ils le pillent eux-mêmes tout seuls. Et merci, tous les jours, il y a des centaines de citernes qui partent vers leur base qui est à Shedadi, qui est dans le nord-ouest de l'Irak.
Merci Marine Denise pour ce rappel. Alors, Monsieur Luc Michel, on voit une véritable concordance de calendrier ces deux dernières semaines, parce que si les choses ont bougé après que l'Iran ait fait cette signature diplomatique en Chine, tout s'est mis en place, mais pour l'Iran, ce n'est pas une date, faite par hasard, puisque c'est passé juste avant les fêtes de Nowruz, une date extrêmement importante pour le calendrier donc, iranien. Vous-même, quand vous voyez cette concordance de calendrier, parce que beaucoup de choses se sont passées, il n'y a pas forcément seulement la rencontre de Assad aux Émirats arabes unis, comme j'ai expliqué avec l'Iran, la diplomatie vers les pays arabes a augmenté. Il y a également cette rencontre à Moscou avec Xi Jinping, mais également les panafricanisme, le forum panafricaniste à Moscou. Beaucoup de choses sont révélées dans ces deux dernières semaines. Vous-même, quand vous voyez cette concordance, vous y voyez une concordance? Est-ce le fruit d'un hasard ou c'est bien ces trois pays, l'Iran, donc la Russie et la Chine, qui ont mis en place un calendrier afin de se préparer au printemps qui s'annonce extrêmement difficile, notamment en Ukraine?
Non, il y a une dynamique mondiale qui a été lancée par Poutine et qui est soutenu par l'Iran et la Chine, et qui vise à dynamiter l'ancien ordre mondial américain. C'est une dynamique vers un monde multipolaire, et la Syrie surfe sur cette dynamique multipolaire. Ce que nous assistons vis-à-vis de la Syrie, c'est l'échec du printemps arabe, sans même parler de l'Irak dont on fête l'anniversaire, le triste anniversaire aujourd'hui. Ce printemps arabe qui a détruit le Yémen, la Libye et la Syrie qui a fait des millions de morts, c'est un échec complet. Le but du printemps arabe était deux décennies occidentales avant, c'était d'isoler la Syrie. Il y avait déjà eu ce qu'on a appelé improprement la révolution des cèdres, qui est une révolution de couleur occidentale au Liban visant à chasser la Libye. Tout cela, c'est un échec. Damas s'est désenclavée elle-même. Elle est reconnue par ses pères arabes et ce n'est que justice.
Merci, M. Luc Michel. Madame Midani, malheureusement, aujourd'hui, il y a eu une attaque de l'aéroport de la capitale syrienne, Damas. Selon Sana, il n'y a eu que des dégâts matériels. L'un des plus gros ennemis, finalement, de la Syrie reste l'entité sioniste, comme l'est pour l'Iran, comme l'est pour le Liban. C'est finalement un ennemi qui concorde et qui provoque beaucoup de déstabilisation dans le pays. Et qu'est-ce que disent les dernières informations concernant cette attaque qui s'est passée donc aujourd'hui ou hier soir à Damas?
Bah écoutez, les Israéliens, ils n'arrêtent pas d'attaquer la Syrie. C'est toutes les deux semaines ou toutes les semaines pratiquement. Et ils attaquent les aéroports. Alors je tiens à dire quand même, c'est non seulement la Syrie ne les a pas agressés, mais en plus l'aéroport de Damas est un aéroport civil et c'est l'aéroport qui reçoit aussi les aides après le séisme. Donc c'est un double crime. Et l'entité sioniste s'enfonce dans ses crimes et s'enfonce dans ses agressions et dans ses violations systématiques du droit international et de la et vraiment des droits humains, tout simplement. Donc c'est l'allié privilégié des États-Unis, c'est leur instrument dans la région. Je ne dis pas les États-Unis seulement, mais c'est tous les pays de l'OTAN. Et c'est quelque chose d'assez fou, cette criminalité qui est impunie et soutenue par l'Occident, qui prétend systématiquement qu'il défend les droits de l'homme. D'ailleurs, je voudrais là-dessus dire que c'est vraiment, maintenant les masques sont tombés aux yeux de tout le monde sur la nature de l'Occident, la nature de ces pays qui prétendent parler de liberté et de défense des droits de l'homme, qui ne sont que des agresseurs permanents et des gangsters qui commettent des crimes contre l'humanité, contre les gens, contre les civils, contre les peuples. Et d'ailleurs, il suffit de voir comment cette entité sioniste traite les Palestiniens. C'est une manière absolument non seulement fasciste, mais je crois que démesurée dans le fascisme. Et il n'y a pas de mots pour qualifier ça. Et ce soutien abject des pays occidentaux à cette entité fait d'eux aussi des criminels et des complices du crime systématique.
Merci. Alors, Madame Midani.
Aussi.
Alors, Monsieur Luc Michel, les Algériens, cette semaine, ont indiqué que les différents accords qui se sont passés au Moyen-Orient vont permettre à ce que la cause palestinienne soit mieux protégée, qu'il y ait une plus grande unité dans le monde arabe. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos tenus par le président algérien, Monsieur Tebboune? Est-ce que ça va permettre à ce qu'il y ait une plus grande unification sur la manière de dialoguer avec l'entité sioniste concernant les territoires palestiniens occupés et les crimes israéliens?
Bien entendu, on assiste depuis un an, parallèlement au désenclavement de la Syrie, à la relance de la lutte palestinienne grâce principalement à l'Iran et à l'Algérie. Il faut constater cela. Les Algériens, la cause palestinienne qui est un peu mise de côté depuis une décennie aujourd'hui, c'est une cause à niveau populaire et qui bénéficie du soutien de la rue arabe, comme l'a montré la récente, les incidents de la Coupe du Monde de football. Donc la cause de la Palestine n'est plus isolée, d'autant plus que c'est le gouvernement israélien qui est isolé. C'est un gouvernement néo-fasciste qui est fait avec les éléments les plus radicaux du sionisme et le Likoud de Netanyahou. Cet isolement qui est même réel aux États-Unis du Likoud, évidemment, il correspond au désenclavement des Palestiniens.
Merci, Monsieur Luc Michel. Madame Dani, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos tenus par Monsieur Luc Michel, rappelant donc aux auditeurs que le Golan syrien est occupé également et subit également une occupation de l'entité sioniste, comme l'est la Palestine, et que pour la Syrie, la question palestinienne n'a jamais été oubliée. Vous-même, vous êtes d'accord? Est-ce que grâce à cette unification qui est en train de se passer, cette énergie, cette synergie, la cause palestinienne pourrait donc plus protégée?
En fait, la cause palestinienne, elle est toujours restée au cœur de tous les peuples arabes et de tous les pays arabes. C'est une profonde injustice, en fait, qui a été même, qui a même été approuvée par les Nations Unies, malheureusement, en 48. Et je suis d'accord avec les propos de Monsieur Luc Michel complètement. C'est un pays fasciste. L'entité israélienne est fasciste et elle réunit les éléments les plus extrémistes dans leur fascisme, aussi le Likoud et les autres. Maintenant, je peux dire que en fait, la résistance de la Syrie et le fait de dire, de montre que quand on peut gagner, on peut être victorieux, et donc a permis effectivement de donner beaucoup de courage au peuple palestinien qui effectivement a relancé sa lutte et qui s'organise de manière systématique et dans tout le dans tout le territoire palestinien. En jetant derrière lui les accords d'Oslo, les accords, tous ces accords qui visaient à diviser le pays et à donner ce qui ne, de manière illégale à Israël, à l'entité sioniste, une grande partie du territoire palestinien.
Merci, Mme.
Je pense que de toute façon, les Palestiniens vaincront de toute manière.
Alors, je rebondis sur ce que vous dites pour vous poser une autre question sur, en ces derniers temps, les rapports iraniens en matière de diplomatie indiquent que les premiers mouvements vers la diplomatie, vers les pays arabes, vers l'Iran, vont permettre peut-être d'ouvrir des solutions, de permettre des solutions pour différents autres pays arabes qui seraient intéressés d'avoir de nouveau une diplomatie active avec l'Iran. On a parlé de l'Égypte, on a parlé de Bahreïn, on a parlé de la Jordanie. Est-ce que pour la Syrie, ça va être pareil? Les Émirats arabes unis ne vont pas être les premiers et derniers. Est-ce qu'il y a d'autres pays arabes? Est-ce que vous entendez des échos dans l'actualité syrienne sur d'autres pays arabes enclins à faire un pas vers la Syrie du président Assad?
Ah, bien sûr, elle est à moi la question, c'est ça?
Oui, elle est pour vous, Madame Midani. Ce serait vous qui concluez le débat d'aujourd'hui.
L'Égypte, par exemple, a repris ses relations avec la Syrie. Il y a eu une visite non seulement de l'ensemble des partis, d'un consortium des partis politiques qui est venu en Syrie, qui ont rencontré Assad aussi. Et il y a eu le ministre des Affaires étrangères égyptien qui est venu en Syrie. Et ces choses, en fait, se préparent. Effectivement, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses, peut-être, se préparent du côté de l'Arabie saoudite aussi, parce que après cet accord avec sous l'égide de la Chine entre l'Iran et l'Arabie saoudite, ça permet aussi de poser la question autrement. En fait, tous les pays arabes maintenant se posent la question, non pas par rapport à la Syrie, mais aussi par rapport à une nouvelle politique, à un nouveau positionnement dans ce nouvel ordre mondial. Ils sont tous conscients qu'ils ont un rôle à jouer, beaucoup plus important alors qu'ils étaient marginalisés et pillés par le monde occidental au moment du règne, je dirais, monopolistique américain. Donc là, il y a une prise de conscience sur un rôle qu'on peut avoir en fait avec les pays de l'Asie, de la Russie et puis avec l'Iran dans toute la région, qui va dans le sens d'une prospérité économique et politique de la région, des peuples de la région et donc d'une opposition, je dirais, aussi à l'hégémonisme américain et surtout à l'hégémonisme de toutes sortes. Parce que là, on tend vers des rapports égalitaires où on traite d'égal à égal avec tous les pays et en termes de gagnant-gagnant au niveau des rapports économiques, au niveau des rapports sociaux et des échanges. Donc, tout ceci, ce sont les fondements, ce sont des fondements plus sains, je dirais, et qui prépare ce nouveau monde et auquel, effectivement, les pays se rangent.
Merci,
la Syrie est aussi la pierre angulaire dans la région de l'axe de la résistance, je pourrais le dire. Et donc, ça aussi, quand on veut la libération de la Palestine, c'est important de traiter avec la Syrie.
Merci, Madame Midani. Merci. Monsieur Luc Michel, est-ce que vous êtes d'accord avec la conclusion de Madame Midani, surtout en concernant l'égalité des pouvoirs entre États et le respect de la souveraineté?
Oui, tout à fait. Et une des clés du nouveau monde, c'est le basculement du Proche-Orient. L'Arabie saoudite est passée du côté du bloc de l'Est et les États producteurs de gaz, le Qatar et les Émiratis, ont basculé également du côté du bloc de l'Est. C'est le Proche-Orient qui est en train d'échapper des mains américaines et des mains sionistes, et c'est cela qui est capital.
Merci.
La réception de Assad en Arabie saoudite, évidemment, c'est l'événement le plus significatif.
Merci, Monsieur Luc Michel. Je remercie donc à nos experts, Madame Midani, je le rappelle, analyste franco-syrienne, Monsieur Luc Michel également, notre analyste, notamment pour le continent africain. Je vous remercie à tous les deux donc d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce débat et je vous souhaite donc une bonne fin de journée. Au revoir.
La voix de la lumière.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Louange au prophète de la paix et de la clémence, le vénéré Mohammed. Que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, nous vous présentons la lecture, la traduction et l'exégèse des versets 29 à 35 du chapitre 43 du Noble Coran, la Sainte Sourate Al-Zukhruf, l'ornement. Restez avec nous jusqu'à la fin de la Voix de la Lumière, aujourd'hui. Dans notre dernier programme, nous avons lu ensemble les versets de la sourate 43 qui nous ont appris que les païens de la Mecque n'étaient pas seuls à prétendre suivre les superstitions de leurs ancêtres pour rejeter l'appel du messager de Dieu. Le Coran souligne qu'avant l'avènement de l'islam, d'autres peuples avaient ainsi rejeté l'appel des messagers de Dieu. Le Coran souligne surtout le rôle des personnes riches et aisées dans le rejet de la religion, afin qu'ils puissent conserver leur influence sur leurs prochains. Pour répondre à ceux qui prétendent suivre les mœurs et les traditions ancestrales au lieu d'adhérer à la religion et de se soumettre à la volonté du Seigneur, le Coran dit que le but des humains est d'atteindre le salut éternel et que ce but ne serait pas assuré par les croyances superstitieuses et ancestrales. Le Coran rappelle brièvement l'histoire du vénéré Abraham, béni soit-il, lorsqu'il dit à son père et à des gens de sa communauté qu'il s'abstenait d'adorer les idoles et qu'il n'adorerait que Dieu Tout-Puissant qu'il a créé. Les adeptes des religions monothéistes qui prétendent suivre la religion du vénéré Abraham, béni soit-il, doivent donc toujours suivre cet exemple. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, écoutons d'abord les versets 29 et 30 de la Sainte Sourate Al-Zukhruf, l'ornement. Puis nous vous en donnerons la traduction.
<t'en> ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون.
Mais à ces gens, ainsi à leurs ancêtres, j'ai accordé la jouissance jusqu'à ce que leur vinre la vérité, le Coran et un messager explicite. Et quand la vérité leur vint, ils dirent : c'est de la magie et nous n'y croyons pas. La tradition divine consiste à gratifier les créatures de toutes sortes de bienfaits jusqu'à ce que les messagers viennent auprès d'elles avec le livre de la vérité. Cependant, beaucoup d'entre eux ont désobéi et n'y ont pas cru. Les païens de la Mecque n'y ont pas fait exception. Ils ont accusé le messager que Dieu avait élu parmi eux de magie et ont rejeté son appel. Ces versets nous apprennent que ce qui a été révélé par le Seigneur à ses messagers était la pure vérité. Chaque fois que les gens s'y sont opposés, ils ont pris le chemin de l'injuste. Le fait de profiter des bienfaits de ce monde, des richesses et du pouvoir ne signifie pas que les mécréants ont raison. Par contre, c'est un délai fixé par le Seigneur pour qu'ils se repentissent. Une fois le message transmis par les prophètes, les gens n'ont plus la possibilité de tourner le dos à la vérité, et leur désobéissance signifiera désormais la mécréance. Voici maintenant les versets 31 et 32 de la Sainte Sourate Al-Zukhruf, l'ornement.
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.
Et ils dirent : pourquoi n'a-t-on pas fait descendre ce Coran sur un haut personnage de l'une des deux cités, la Mecque et Taïf ? Est-ce ceux qui distribuent la miséricorde de ton Seigneur? C'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente et qui les avons élevés en grade les uns sur les autres afin que les uns prennent les autres à leur service. La miséricorde de ton Seigneur vaut mieux cependant que ce qu'ils amassent. Les païens disaient : pourquoi Dieu n'avait-il pas élu son messager parmi les notables de la Mecque ou de Taïf ? Pourquoi avait-il donc élu un orphelin pauvre pour guider les gens ? Pour eux, la prophétie était donc quelque chose comparable à la position d'un chef de tribu. Or, le Coran souligne que le messager doit correspondre à des critères tout à fait différents. Ces versets nous apprennent que pour beaucoup de gens, la richesse et le pouvoir sont les principaux critères pour déterminer la place qu'une personne peut occuper dans ce monde. Or, aux yeux du Seigneur, les critères sont tout à fait différents. Les bienfaits matériels et spirituels sont des signes de la miséricorde de Dieu. C'est donc lui qui décide comment ses bienfaits doivent être distribués parmi les humains. La survie et la prospérité d'une société dépendent de la coopération et de la cohésion parmi les individus qui la composent, et non pas sur un système de discrimination parmi les membres de la société. Écoutons enfin les versets 33 à 35 de la sourate 43 du Noble Coran.
ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين.
Si les hommes ne devaient pas constituer une seule communauté mécréante, nous aurions certes pourvu les maisons de ceux qui ne croit pas au tout miséricordieux, de toits d'argent avec des escaliers pour y monter. Nous aurions pourvu leur maison de portes et de divans où ils s'accoutraient ainsi que des ornements. Et tout cela ne serait que jouissance temporaire de la vie d'ici-bas, alors que l'au-delà, auprès de ton Seigneur, est pour les pieux. Aux yeux du Seigneur, ce qui compte, c'est la pureté intérieure et la piété. L'or et l'argent et toutes les parures de ce monde n'ont aucune valeur selon les principes de la religion. Si Dieu le Très-Haut donne toutes les richesses aux mécréants, ces derniers n'ont en réalité rien gagné de précieux. Ces versets nous apprennent que les gens se comportent souvent selon les critères et des systèmes de valeurs qui sont faux. Pour eux, le bien-être et la richesse suffiraient pour qu'ils se détournent du droit chemin et qu'ils suivent ceux qui ont le pouvoir et les richesses de ce bas monde. Les vraies valeurs humaines sont les valeurs intérieures et immatérielles. La piété et la droiture seront récompensées par le Seigneur, tant dans ce monde que dans l'au-delà. Chers auditeurs, ici s'achève la voie de la lumière d'aujourd'hui. La prochaine fois, nous vous présenterons la lecture et l'exégèse d'autres versets du chapitre 43 du Noble Coran, la Sainte Sourate Al-Zukhruf, l'ornement. D'ici là, nous vous confions toutes et tous à la garde de Dieu. Chers auditeurs, vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure, sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Thank you.
Thank you.